D'accord, on va lire le texte d'aujourd'hui avant ça, on va prier bien entendu, et après ça on y va avec l'étude. Et comme j'ai dit, on commence à l'heure aujourd'hui parce que j'ai encore des rendez-vous ce matin. Donc prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Je te demande d'être avec nous dans ce temps de partage, dans ce temps de méditation. Instruis-nous, parle-nous, dis-nous ce que tu as préparé de toute éternité pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté de ta bénédiction. Nous ne voulons pas passer à côté d'une parole qui sorte de ta bouche, spécialement et spécifiquement destinée à notre attention. Alors bénis-nous, instruis-nous, sois avec nous et permets-nous de sentir ta présence de façon palpable et tangible. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors je relis pour vous dans Lévitique au chapitre 25, les versets 8 à 10. Et le verset thème pour aujourd'hui, c'est bien entendu, comme pour toute cette semaine, le verset 10. Alors, à partir du verset 8, on nous dit, tu compteras sept sabbats d'année, sept fois sept années, et les jours de ces sept sabbats d'année feront 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette du jubilé dans tout votre pays. Vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Et je relis donc le verset 10. Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Chacun de vous retournera dans sa famille. Alors que Dieu bénisse ce court moment de parole encore ce matin. Alors, hier, on a parlé de la question de sanctifier le message et le fait du jubilé. Et on fait bien entendu, lorsqu'on parle du jubilé, on parle de cette occasion de recourir à la loi divine pour accéder à la liberté qui nous a été octroyée, qui nous a été pourvue et offerte par Dieu. Et aujourd'hui, si hier c'était une année à sanctifier, une thématique à sanctifier, aujourd'hui le sous-titre, bien que le titre de cette semaine c'est un retour à la liberté, le sous-titre d'aujourd'hui, c'est une liberté à publier dans le pays et pour tous ses habitants. Une liberté à publier dans le pays et pour tous ses habitants. Simplement vous rappeler quelques termes importants en hébreu pour ceux qui prennent des termes. Le terme yobel, yobel, je répète. Je m'excuse pour le lapsus, yobel, qui nous parle du jubilé, et qu'on traduirait par bélier ou par corne du bélier ou par trompette, puisque c'était de la corne de ce bélier qu'on tirait spécifiquement le shofar, qui est la trompette de rituel dans la tradition juive. Publier, un terme qu'on a étudié, que vous savez qui me plaît énormément, le terme kara. Q-A-R-A, je répète, kara, publié, Q-A-R-A, qui veut dire proclamer, appeler, crier, nommer, prêcher, invoquer. Le terme liberté, qu'on a déjà étudié à travers les derniers jours, derower, derower, D-E-R-O-W-R, je répète, D-E-R-O-W-R, qui veut dire couler à flot, qui veut dire avoir libre cours, déborder, être en abondance et être pur. Pays, on l'a étudié à quelques reprises aussi, le terme Eretz, E-R-E-T-S, E-R-E-T-S, territoire, terre, sol, terreau. On peut parler d'habitant aussi dans certains cas. Mais pour le terme habitant, il y a aussi un terme plus approprié, le terme Yashab, Y-A. S-H-A-B, je répète, Y-A-S-H-A-B, qui parle de gens qui sont établis, qui habitent dans un endroit, qui sont liés à un endroit. On peut parler de Yashab pour un couple qui est marié et pour des gens qui demeurent dans un territoire donné. Aujourd'hui, on pourrait effectivement retourner sur le fait de publier, de proclamer la liberté, mais je pense qu'on l'a assez bien vu hier quant à pourquoi il était important de considérer le message de l'Évangile comme étant quelque chose de saint et quelque chose qu'on s'y vouait. Aujourd'hui, on va essayer de prendre la liberté qui est publiée par tout le pays et pour tous ses habitants sous un autre angle et peut-être s'intéresser à savoir mais pourquoi je ne publie pas la liberté, pourquoi je ne suis pas porté à annoncer l'Évangile, qu'est-ce qui devrait me convaincre à annoncer l'Évangile. Et on va voir quatre points. Je n'ai pas le sentiment que ce sont des points qui sont très profonds. Je pense que c'est des vérités toutes simples qui vont au minimum nous amener à réfléchir sur notre propre condition et à s'interroger. Est-ce que je suis en train de faire la job en bon québécois ou le job en français? Est-ce que je suis en train de faire le travail que Dieu me demande de faire quant à être son témoin, quant à être le prosélyte qui annonce l'Évangile comme le Christ nous l'a demandé? Donc le premier point, je vous dirais que celui qui a vraiment été libéré parlera aussi tout naturellement de sa libération. Sinon, il est encore sous un joug. Je répète, celui qui a vraiment été libéré parlera tout naturellement de sa libération. Sinon, il est encore sous un joug. Et je vais développer dans quelques instants quel joug. Mais vous savez, quand vous recevez un cadeau et que ce cadeau vous touche au plus haut point, la réaction la plus naturelle, que vous allez peut-être effréner, que vous allez peut-être répresser, mais la réaction la plus naturelle, c'est effectivement de parler du cadeau que vous avez reçu. Lorsque certains qui sont amateurs peut-être de bons mets, de bons restaurants, à l'époque on avait le droit de visiter et de s'attabler dans un restaurant, lorsque vous étiez mis en contact pour une toute première fois, lorsque vous expérimentiez un nouveau restaurant pour la toute première fois et que ce restaurant répondait vraiment à vos attentes au niveau du service, au niveau de l'accueil, au niveau de la diversité des plats, au niveau de la découverte culinaire. La plupart d'entre nous, le réflexe qu'on a dans un tel cas, c'est de parler de ce restaurant et de dire « Je viens de trouver une perle et c'est sûr que j'y retourne et je vous conseille d'y aller. » C'est difficile lorsqu'on met dans une balance un restaurant et Jésus et de comprendre qu'on se taise pour Jésus. C'est totalement illogique. Quand on veut revenir à quelque chose qui est plus rationnel, quand on veut revenir à un calcul froid, des choses qui m'emballent et des choses pour lesquelles je ne me gêne pas de parler, mais quand on arrive concernant la foi, qui est supposée être la chose la plus importante de notre vie, puisque de notre foi découle notre vie éternelle, notre salut pour l'éternité. Donc il n'y a pas un plus grand gage, il n'y a pas un plus grand cadeau, il n'y a pas une chose, un domaine plus important que celui-là de toute notre existence. Et lorsqu'on le compare à une victoire de notre équipe sportive préférée, très souvent, on va jubiler pour l'équipe sportive et on va se taire pour Jésus. Comprenez-vous que c'est illogique? Et quand je dis que la personne qui a vraiment été libérée va être amenée tout naturellement à parler, prenez un exemple. À un moment donné, je ne me rappelle plus c'est quelle personne que Jésus va guérir. Et je sais que c'est un homme, mais il va lui dire « n'en parle à personne ». Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'en va en parler malgré tout. C'est comme si c'est plus fort que lui. Il n'est pas capable de réprimer la chose. Il vient de recevoir la guérison. Il vient de recevoir un miracle et sa première tendance, c'est d'en parler. Lorsque tu comprends de quoi Jésus t'a sauvé, lorsque tu réfléchis au salut que Christ t'a accompli, comment peux-tu justifier? Et quand je dis le « tu », c'est le « on », c'est le « you » en anglophone. Comment peut-on Mais je devrais plutôt dire comment pouvons-nous, parce que ça doit inclure la personne qui parle. Donc, comment pouvons-nous nous taire, comment puis-je me taire lorsque j'ai vraiment été libéré par Jésus? Très souvent, les choses qui vont nous faire, nous taire lorsqu'on parle de témoigner et tout ça, c'est trois points importants. Il y en aurait plus, mais je vous en cite trois. Important. Un, l'égoïsme. Vouloir garder le cadeau pour nous-mêmes. Vouloir ne pas partager ce cadeau. Comprends-moi bien. La liberté, ce n'est pas quelque chose que tu peux garder pour toi-même. Et on va l'expliquer tout à l'heure. Lorsque tu es vraiment libre, ben tu es aussi libre de parler. Lorsque tu es tout le temps en train d'être, de vivre, je veux pas qu'on le sache parce qu'on va venir me le voler, parce qu'on va venir me le prendre, c'est que tu n'as pas encore compris toute la portée, toute la notion de ce que représente la liberté. Donc, parfois, tu es encore sous le joug de l'égoïsme. Et si tu es sous le joug de l'égoïsme qui fait que c'est toi en premier, puis les autres éventuellement, ben à ce moment-là, tu peux pas dire que tu es vraiment libéré. De surcroît à ça, une des autres raisons pour lesquelles souvent on ne parle pas, c'est parce qu'on soupçonne que les gens vont nous brimer, faire subir leurs affres après qu'on ait témoigné. Donc on les soupçonne d'avoir de mauvais plans à notre égard si on leur parle de Jésus. Dans le chapitre où Paul va parler de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, il va dire une phrase importante que j'aime répéter à tous ceux qui sont des suspicieux. Il y a des gens que j'appelle chrétiens type KGB. Donc, il ne faut pas dire toute chose à tout le monde parce que là, ils vont se liguer contre toi. Tu dois te méfier de ci, tu dois te méfier de ça, tu dois te méfier de ces personnes, puis tu dois te méfier de ces autres personnes. Et ces gens qui sont suspicieux, très souvent, sont même suspicieux au sein de l'Église. On a déjà dit, Florence, ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans l'Église qui sont chrétiens. Et vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas parce que tu fréquentes l'Église depuis 40 ans que tu lèves les mains, que tu bats des mains, que tu danses, que tu sautes, que tu fais la pirouette, que tu es nécessairement chrétien. Tu as tout à fait raison. Mais la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas du mal. Donc, je te pose la question, quand tu es en train de te méfier des gens constamment autour de toi, quand tu es en train de dire, il y a quelqu'un quelque part qui veut me faire mal, je ne sais pas c'est qui, mais je pense que ça pourrait être lui ou je pense que ça pourrait être elle, ce que tu es en train de faire, tu es en train de juger, tu es en train de soupçonner le mal. Et la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, si tu n'es pas capable d'aimer en abandonnant la suspicion, en abandonnant le soupçon perpétuel, permanent et constant sur les gens, tu es donc sous le joug de la peur, sous le joug de la suspicion, sous le joug de la méfiance ambiante. Et à ce moment-là, tu ne peux pas dire que tu es dans la liberté. Et la troisième raison qui va de pair avec la suspicion, mais qui amène la suspicion plus loin, c'est le jugement. Lui ne mérite pas que je lui parle. Lui ne mérite pas mon attention. Lui ne mérite pas que je m'arrête pour lui expliquer les choses. Elle ne mérite pas, de par ses actions qu'elle a déjà faites à mon égard, de par son attitude, de par sa personnalité, elle ne mérite pas que je lui adresse la parole. Tu ne méritais pas que Jésus meure pour toi. En fait, tu ne le mérites toujours pas aujourd'hui et tu ne le mériteras jamais. Le salut t'a été donné par la grâce. Donc, si tu es quelqu'un, et j'aime le terme en anglais « judgmental », dont j'arriverais mal à faire une traduction littérale vers le français. « Judgmental », ça veut dire quelqu'un qui est tout le temps dans le jugement, qui est tout le temps en train de juger les gens, qui est tout le temps en train d'apporter un verdict sur les gens. Et vous en conviendrez que ce n'est probablement pas de vous que je parle, mais vous connaissez quelqu'un quelque part absolument, constamment est en train de juger les gens. Et je vous dirais que ce faisant, quand vous arrivez à mettre un nom sur cette personne, mais ça se pourrait que vous soyez en train de porter un jugement par rapport à cette personne. Mais je dis ça comme juste en aparté. Chose certaine, il y a des gens qui ne veulent pas parler parce qu'ils sont en train de juger que la personne ne mérite pas d'entendre ce message, qu'elle ne mérite pas mon attention, qu'elle ne mérite pas ma grâce, qu'elle ne mérite pas mon amour. Ce faisant, tu ne peux pas te considérer vraiment comme étant libre. Donc, celui qui a vraiment été libéré va à ce moment-là être à même de parler avec liberté aussi de son Seigneur. Il ne sera sous aucun joug. Alors, plus tu analyses ta propre condition, plus que tu vas remarquer que probablement, il y a encore des secteurs de ta vie qui doivent être libérés par la grâce et la puissance de l'Esprit de Dieu. Deuxième point ce matin, plus on est libre, moins on a de résistance ou d'inhibition à parler. Je répète, plus on est libre, moins on a de résistance ou d'inhibition à parler. Plus je suis habité de cette liberté, qui n'est pas simplement qu'un titre. Prendre une gorgée. Je m'excuse, la gorge un peu irritée ce matin. Donc, plus on est libre, moins on va avoir d'obstacles qu'on va se mettre à parler, que ce soit la gêne. La gêne est aussi un frein. Mais plus je suis libre, plus ça ne me dérange plus ce que les gens vont penser de moi, ce que les gens vont dire de moi, ou même ce que les gens vont faire en retour. Puisque la seule chose qui compte, c'est d'honorer mon Seigneur, et je suis tellement emballé par lui et par ce qu'il a fait pour moi, je suis tellement libéré de tout ce qui me bloquait auparavant, que je n'ai plus ces inhibitions naturelles, voire environnementales, donc l'environnement dans lequel je suis, ou les personnes qui m'entourent, qui ont suscité ça chez moi, moi je me préoccupe de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont dire, et de ce que va être leur réponse. Mais je sais qu'il est important que je parle. Alors plus je vis dans cette liberté de Christ, plus je suis à même de parler, plus je suis habité par la liberté que Christ m'octroie, moins j'ai d'égoïsme, moins j'ai de suspicion, moins j'ai de jugement, moins j'ai de gêne, moins je me demande ce qu'ils vont en dire. À la blague, à l'époque, étant plus jeune, on nous faisait la blague, notre pire ennemi s'appelle Yvon, dans le sens où qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont répondre, qu'est-ce qu'ils vont réagir. Donc, le « Yvon » est souvent un problème dans nos vies. Mais plus je suis libéré, plus je suis aussi libéré de la crainte du « Yvon ». Et s'il y a un « Yvon » qui nous écoute aujourd'hui, je le dis avec tout simplement beaucoup d'affection et un petit sourire. Donc, le deuxième point aujourd'hui, plus on est libre, moins on a de résistance et moins on a d'inhibition à parler. Troisièmement, plus on est conscient de la grâce qui nous a été faite avec la liberté qui nous a été donnée, moins on ne peut réprimer notre témoignage. Je répète, plus on est conscient de la grâce qui nous a été faite, de la liberté qui nous a été octroyée, moins on ne peut réprimer son témoignage. Plus je suis conscient que j'étais pécheur, plus je suis conscient que je méritais la condamnation qui était déjà sur moi, plus je suis conscient que je méritais pleinement la culpabilité qui était sur moi. Pas une culpabilité, comme on a dit hier, qu'on pense qu'il va venir le jour de notre mort. Nous sommes déjà condamnés et coupables. Le salut que nous offre Dieu, ce n'est pas en vue de la condamnation qui arrive. La condamnation est déjà là. Je suis déjà condamné. Je suis déjà perdu pour l'éternité, mais Dieu m'offre le salut qui permet de contourner cette condamnation, qui permet de défaire cette condamnation, qui permet d'effacer cette condamnation qui est déjà actuelle et active sur moi. Donc, il est important de savoir que plus je suis conscient de la grâce qui m'a été faite, comme quoi non, je ne méritais pas le pardon, non, je ne méritais pas la grâce de Dieu, non, je ne méritais pas la liberté qu'il m'accorde, non, je ne méritais pas d'être appelé son enfant, non, je ne mérite pas d'être son serviteur, non, je ne mérite pas d'être greffé à l'assemblée des saints et des rachetés, non, je ne mérite aucune attention de la part de Dieu. Plus j'en suis conscient, plus mon cœur va être rempli de reconnaissance et la reconnaissance va se manifester aussi par un témoignage actif, constant, permanent, fréquent, mais très fréquent, pas parcelé une fois par année lorsque le pasteur parle un dimanche sur l'évangélisation, mais ça devient, ça bouillonne tellement à l'intérieur de moi ce que j'ai reçu que comme pour le meilleur restaurant que je goûte un jour et que j'en parle pour le restant de mon existence, je vais parler de Jésus pour le restant de mon existence, plus je suis conscient de la grâce qui m'a été donnée. Et enfin, dernier point aujourd'hui, plus on est convaincu de notre libération. Donc tout à l'heure, c'est plus on est conscient, mais là, plus on est convaincu. Plus je suis convaincu de ma libération, plus je suis porté à parler partout et en tout temps. Je m'explique ici et j'essaie d'imager un peu la chose pour vous. Si effectivement je suis condamné à une mort éternelle, si je suis conscient que j'ai enfreint les règles de Dieu et que je méritais pleinement cette chose-là, et si je suis convaincu sans l'ombre d'un doute que j'ai été libéré, ben, il va être aussi tout naturel de parler. La difficulté qu'on rencontre très souvent, c'est qu'il y a des chrétiens qui affirment être chrétiens et qui parlent de leur foi, mais quand tu leur demandes « es-tu convaincu d'être sauvé? », ils vont te répondre quelque chose comme « ben, je l'espère ». C'est pas « je l'espère », c'est « je suis sauvé ». C'est pas « j'espère avoir été pardonné », c'est « j'ai été pardonné ». Certains vont même aller répondre, mais c'est l'avenir qui nous le dira, ou c'est l'éternité qui va nous le révéler. Paul disait, hey, moi je sais que mon parcours ici-bas sur terre est en train d'achever. Je sais que ma course est terminée. Je sais que je sers déjà comme offrande qui est livrée sur l'autel. Il dit, je sers déjà de libation. Donc ma vie est déjà déversée sur l'autel de Dieu. Mais je sais que la couronne m'attend. Je sais que la couronne de vie m'attend parce que j'ai combattu le bon combat, parce que j'ai couru la course. Donc, Paul avait cette assurance de son salut. Ça devrait être la même chose pour toi et pour moi. Tu ne devrais pas vivre des mois et des mois, des années et des années en te demandant « suis-je vraiment sauvé ?» Voilà pourquoi il est important de rentrer dans les cadres bibliques, de rentrer dans les choses que Dieu demande. Est-ce que de ma vie, je fais ce qu'il demande? Est-ce qu'effectivement, je l'ai reconnu comme Seigneur et comme Sauveur? Est-ce qu'effectivement, je rentre dans sa volonté, dans ses plans et dans ses exigences, pas à pas, au fur et à mesure que j'avance avec lui? Est-ce qu'effectivement, je cherche à obéir à sa volonté? Si c'est le cas, ben arrête de dire « j'espère ». Arrête de dire « je pense ». Arrête de dire « je souhaite qu'un jour, peut-être éventuellement ». Paul disait « regardez, je sais que la couronne de vie m'est destinée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé aussi son avènement ». Donc, tous ceux qui auront vécu avec cette pensée, Christ revient chercher son Église. Christ revient chercher son peuple. Et j'ai rendez-vous avec Christ. Alors, je me prépare à ce rendez-vous. Un peu le verset qu'on trouve dans les petits prophètes de l'Ancien Testament, où il dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Nous préparons de ce vivant notre rencontre avec Dieu. Nous ne passerons pas outre la rencontre avec Dieu. Nous ne passerons pas outre notre rendez-vous avec Dieu. Mais notre rendez-vous sera soit pour nous amener dans sa gloire éternelle, ou soit pour nous rejeter pour l'éternité. Alors ça, tu le prépares aujourd'hui. Et cette préparation, tu dois en être certain, tu dois en être sûr, et ça doit laisser chez toi la conviction du salut. Et quand tu es convaincu de ta liberté, tu n'as plus rien à craindre, tu n'as plus rien qui vient te bloquer, tu en parles à tous et tu en parles partout, parce que tu dis, j'ai expérimenté quelque chose que tu veux expérimenter, j'ai expérimenté une chose que tu veux absolument toi aussi partager, que tu veux absolument toi aussi vivre pour toi-même. Tu ne peux plus simplement le taire, tu ne peux plus simplement le garder pour toi. Alors voilà les questions importantes que j'aimerais qu'on se pose ce matin. Se pourrait-il qu'il y ait des choses dans ma vie qui soient encore des jougs? Est-ce que ça se pourrait que je sois encore égoïste et que je veuille garder ce message d'évangile et cette proclamation de l'évangile pour moi-même? Est-ce que ça se pourrait que je sois suspicieux? Suspicieux des gens qui m'entourent. Si je lui parle à lui, à coup sûr, il va me regarder mal et à coup sûr, il va vouloir me faire mal. Mais ça, c'est encore être centré sur toi. Ce n'est plus être centré sur Christ. Ce n'est pas être centré sur son évangile. C'est être centré sur les conséquences que le message ou que la propagation de l'évangile pourrait avoir sur toi. Et ça, ça ne t'appartient pas. Est-ce que Christ peut te protéger? Assurément. Est-ce que Christ veut te protéger? Assurément. Est-ce qu'il va faire en sorte que rien ne t'arrive de désagréable? Absolument pas. La Bible nous parle dans les héros de la foi, dans Hébreux 11, que certains ont été emprisonnés, mis à mort de façon vraiment violente pour avoir été des témoins pour Christ. Et pourtant, la Bible va dire de ces hommes que la terre n'était pas digne de les recevoir, tellement ils sont glorieux aux yeux de Dieu. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être tout simplement racheté au minimum ou tu veux être glorieux aux yeux de Dieu? Est-ce que tu veux entendre, bon, t'es rentré, mais ça a été difficile pour que tu rentres, ou tu veux entendre Dieu qui te dit, tu as été vraiment un bon et un fidèle serviteur? Et un bon et fidèle serviteur, c'est quelqu'un qui proclame. Alors plus je pense à moi, plus je suis égoïste, plus je suis suspicieux, plus je suis judgmental en anglais, ou plus je suis dans le jugement contre les autres, moins je peux dire que j'ai été libéré. Et très souvent, j'ai encore un processus de libération qui doit se passer chez moi. Et quand cette liberté, effectivement, devient présente et manifeste en moi, je n'ai donc plus ces inhibitions, je n'ai plus ces freins, ces blocages qui m'empêchaient jadis de parler. Alors, plus je suis libre, moins j'ai d'inhibitions, plus je suis conscient de sa grâce, moins j'ai de raisons de réprimer et de répresser le témoignage. Et plus je suis convaincu de ma libération, et plus je suis convaincu de mon libérateur, moins je me tais, plus je parle à de monde, plus je parle à des étendues, parce que j'ai été libéré, et je sais qui m'a libéré, et je sais qui est mon libérateur, et je sais où me mène cette libération. Alors voilà les questions qu'on avait pour nous ce matin. Je les laisse devant toi. Je veux que tu pries, je veux que tu interroges Dieu à savoir si tu es effectivement en train de prendre conscience et si tu es vraiment convaincu de ton salut et de la liberté qui t'a été octroyée. Si tu l'es, je te pose cette dernière question, mais je la laisse. Comment peux-tu ne pas parler si tu as été libéré? Alors prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole qui ce matin vient probablement nous secouer. Ta parole qui vient peut-être dépoussiérer des secteurs de nos vies qu'on ne veut pas avouer. Mais effectivement, combien de fois, Seigneur, on est égoïste? Combien de fois on est suspicieux en sentant une menace, en percevant une menace, en essayant de nous préserver d'une menace éventuelle? Des fois, Seigneur, on va même pire que cela. On va jusqu'à être des juges, des serviteurs des autres, des juges de personnes qui ne nous appartiennent pas. On juge les comportements, on juge le cœur, on juge l'attitude, on juge les réactions, on juge la personnalité, sans regarder effectivement la poutre qu'on a dans notre propre œil. On regarde la paille chez notre voisin en oubliant notre poutre. Seigneur, pardonne-nous. Et Seigneur, permets-nous d'avoir un juste aperçu de notre propre personne. En fait, si on, on réfléchissait à notre État qui a encore besoin d'être réformé, modelé pour être à la parfaite stature de Christ. On n'aurait pas tout ce temps qu'on perd à regarder les autres, à les juger et à essayer d'épargner sa vie. Seigneur, parfois on le fait parce qu'on a peur, parce qu'on a la trouille, parce qu'on veut se préserver. Tu nous dis, Seigneur, que celui qui voudra préserver sa vie va la perdre. Celui qui voudra préserver sa vie va la perdre. Seigneur, on préfère la perdre pour toi. On préfère, Seigneur, perdre notre vie pour toi. Vive les conséquences d'avoir été un serviteur et un témoin fidèle. Sachant, Seigneur, que même si nous sommes bannis de cette terre, même si nous sommes honnis sur cette terre, même si on nous haït ici-bas sur terre, toi, tu nous as aimés. Et ta grâce pour nous est tellement grande qu'elle ne devrait en aucun cas être réprimée. Son témoignage ne devrait en aucun cas être réprimé. Ses conséquences dans notre vie et dans notre témoignage ne devraient en aucun cas pouvoir être réprimées. Alors je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, mais je prie surtout pour moi ce matin, que tu m'accordes l'hardiesse, ou que je prenne l'hardiesse de parler et de ne pas me taire, afin d'être un témoin toujours plus efficace jour après jour, un témoin toujours plus volubile jour après jour, un témoin toujours plus engagé jour après jour, prenant conscience à tous les jours un peu plus de la grâce que tu m'as donnée, prenant conscience un peu plus à tous les jours et étant convaincu à chaque jour davantage de mon salut, de la grâce que tu m'as donnée et de la liberté que tu m'as octroyée. Et en réponse, Seigneur, à ce salut, à cette grâce et à cette liberté, je veux parler, parler, parler et parler encore. Bénis ma sœur, bénis mon frère aujourd'hui. Accompagne-nous et utilise-nous à ta gloire. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, saluons juste quelques personnes qui se sont connectées depuis nos dernières salutations. Je remonte un peu. Bonjour à Denise de Laval. Bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour à Bernadette. Bonjour à Rosie. Bonjour à Yaoi. Bonjour. Est-ce que j'ai salué Bernadette? Je ne sais pas. Je re-salue Bernadette. Bonjour à Sony. Bonjour à Babette et à Andreas. Bonjour à Marlène, à Kim. Marlène, c'est le prénom de ma soeur aussi. Je dois vous abandonner. On vient de sonner à la porte. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.